Toutes et tous, bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire et plus, par Karina et Sylvie. Bonjour Karina.
Bonjour Sylvie.
Alors Karina, eh ben on va voir tout de suite ce qu'on a au sommaire de cette locale.
Alors, au sommaire de cette locale du jeudi 6 mai, on va commencer par parler avec Cyril Désiré, directeur du cinéma Le Navire. Il sera par téléphone et on va bien entendu parler de la réouverture des cinémas qu'on attend impatiemment pour le 19 mai. Ensuite, nous parlerons avec Sophie qui est juste en face de nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Karina.
On va faire un petit tour au niveau de la ruche Trucmuche et pour voir aussi votre retour et puis aussi parler des marchés guinguettes et marchés des arts. Le 29 mai. Et pour terminer, on va faire notre troisième et dernier volet de la série avec Viviane Rajot, directrice du service patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire, pour ses balades nature et patrimoine. Et aujourd'hui, on revient sur Valence. On devait aussi accueillir Dan, photographe pour Regard d'Occupants, une expo photo à voir à la Fabrique. Et malheureusement, il n'a pas pu être avec nous à cause d'un empêchement de dernière minute. Et puis, comme d'habitude, des brèves et des infos locales.
Merci Karina. Et tout de suite, on accueille donc Cyril Désiré, directeur du cinéma Le Navire. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous, aujourd'hui. Alors Cyril, enfin, ça y est, c'est pas la cloche à sonner, mais on a une date, donc ce 19 mai tant attendu. Et comment ça se passe pour vous?
Alors,
dans les cinémas, ce 19 mai, est-ce qu'il est finalement si tant attendu que ça?
Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que pour moi, comme je dis. C'est le 19 mai, on est très contents parce qu'on a vraiment des perspectives, une date, avec en plus un phasage d'ouverture étagé, on va dire. Toutefois, je reste quand même un tout petit peu prudent, même si tout semble plutôt bon pour l'instant, parce que c'est toujours conditionné à des situations sanitaire particulière et en plus avec la notion géographique cette fois. Donc faisons attention, normalement c'est le 19 mai, s'il y avait des problèmes d'ici là dans la Drôme notamment, on pourrait avoir de mauvaises surprises. Mais on pense que là maintenant tout est bon et on n'aura que des bonnes surprises. Donc on est content. Maintenant sur la ouverture elle-même, oui évidemment que c'est attendu, je crois que tout le monde l'attend, tout le monde en a envie, dans la profession, les spectateurs, les spectatrices, tout le monde le veut. Maintenant, c'est à nous, programmateurs en cinéma, en tout cas, de faire attention parce qu'on a une pléthore d'offres, quelque chose d'assez incroyable en termes de propositions de films, parce qu'ils sont restés sur les étagères plusieurs mois, qu'il faut absolument qu'ils sortent pour certains, pour des raisons financières. Mais nous, il faut qu'on puisse les proposer, et on va les proposer en plus dans une situation avec un couvre-feu, que je rappelle, il y a un couvre-feu à 21h, hein,
oui,
toujours,
quand même.
Jusqu'au 8 juin inclus. Donc, faisons attention.
Oui, c'est voilà. Tout ça réduit quand même effectivement la fenêtre de tir avec tu disais, des nombreuses propositions. On entend parler d'un chiffre qui est assez symbolique, mais de 400 films qui seraient dans les starting blocks, sans compter ceux qui étaient à l'affiche et qui n'ont pas pu vivre leur vie.
C'est cela. En fait, on est aux alentours de 400 films. Environ 150 étrangers, 150 français, 250 étrangers, avec surtout des films qu'on avait déjà à l'affiche et qui, pour certains, la plupart même, ne sont pas sortis autrement que dans les salles de cinéma depuis plusieurs mois, parce qu'ils auraient pu aller, on pense bien sûr à Dieu les cons de Albert Dupontel, le grand gagnant des Césars de cette année, qui aurait pu très bien aller directement sur des plateformes en VOD ou rachetées par je ne sais quel grand groupe américain. Et non, Gaumont a décidé de garder le film à l'affiche dans les salles parce que Albert Dupontel est quelqu'un qui aime la salle de cinéma. Et donc du coup, ben voilà, il nous faut ressortir ces films-là.
Bien
et
sûr.
C'est normal, c'est tout à fait normal. En plus, c'est des beaux films, je pense à ADN aussi, ou même Garçon Chiffon.
Oui.
Ce sont des films qui sont faits vraiment pour la salle. Donc voilà, on se retrouve à devoir déjà redéfendre ces films-là, et c'est nécessaire, et puis avoir des nouveautés qui vont être hyper intéressantes en plus, hein. Je pense à Mandibule de Quentin Dupieux qui sera un film très très drôle, très décalé, qui fera du bien, hein. Ou même Slalom qui peut être un film très intéressant, et voilà. Mais malheureusement, on n'a pas toutes nos séances.
Et oui.
Et c'est ça qui va être complexe, on n'a pas les séances du soir.
Ah, est-ce que vous envisagez de mettre plus de séances le matin? Est-ce qu'il y a cette possibilité là? Est-ce que pour essayer ça ne compensera jamais les séances du soir, mais voilà, au moins essayer de...
On y a pensé, mais c'est pareil, c'est une question d'équilibre économique aussi, parce qu'on réouvre dans des situations complexes d'un point de vue économique. Là, nous, on a puisé dans nos réserves pendant plusieurs mois, même s'il y a eu des aides de l'État. Hein, et on va pas nier qu'on a eu des très belles aides et qu'on a été très soutenus. Mais malgré tout, là, une réouverture, c'est-à-dire qu'on relance toute la machinerie, on relance les salaires, on relance tous nos frais habituels. Et donc, tourner juste pour faire des séances, pour voir rentrer les films, s'il n'y a pas de spectateurs, parce que, pas mentir, à un moment donné, en semaine, malgré l'envie incroyable des gens d'aller dans les salles, je pense qu'à 11h le matin, ou plutôt même encore en semaine, ça va être un peu difficile pour que tout le monde puisse, enfin voilà, pour que les gens viennent en masse. Surtout qu'on a aussi des jauges de 35% malgré tout. Donc sur des grandes salles, ça va, des petites salles, c'est difficile. Et du coup, ben voilà, il va nous falloir trouver un juste équilibre entre nombre de séances, l'équilibre économique. Enfin voilà, c'est ça qui est compliqué. Et donc du coup, non, on va pas multiplier tant que ça les séances. Voilà, ce sera pas possible.
Oui, c'est des jauges à 35%, hein, tu dis.
Oui, alors dans la plupart du temps, ça va, ça suffit, on va dire, on ne les remplit pas même. Mais sur les séances fortes du week-end, notamment l'après-midi ou en soirée,
oui, ben là,
ça peut vite être compliqué.
Bien sûr, bien sûr.
Bonjour Cyril, est-ce que du coup vous envisagez de réduire la durée du film à l'affiche pour en passer plus?
Ben, ce serait une tentation. Mais vaut-il mieux passer plus de films en proposition ou défendre des films qu'on a vraiment envie de défendre et les garder longtemps? C'est une vraie question. Moi, honnêtement, j'ai pas totalement tranché. Je pense qu'on va devoir travailler différemment. Alors, ce qui est évident, c'est que les spectateurs doivent s'attendre à ce qu'on ne puisse pas tout diffuser. On ne puisse pas tout montrer, mais c'est aussi parce qu'il y a une volonté aussi derrière à un moment qui est qu'il y a une volonté économique toujours, mais il y a aussi une volonté en tant que programmateur de rappeler à tout le monde qu'une salle de cinéma, on n'est pas juste un lieu de marchandise, on n'est pas juste un lieu de diffusion et on va y trouver tout ce qu'on veut comme on veut. Les plateformes sont là maintenant pour ça, elles ont pris le pas sur nous, on ne pourra pas jamais se battre contre elles. Nous, la différence, c'est que on peut voir les films que nous on choisit, parce qu'en tant que programmateur, je fais des choix. Il y a une ligne éditoriale, comme dans la Comédie de Valence, comme au train d'un théâtre, comme au Luxe, on a nos lignes, le navire a sa ligne, et puis surtout, nous on vient voir les films dans les meilleures conditions, avec un accompagnement, avec quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc forcément, je ne pourrais pas tout diffuser, ça va faire les gens ne seront pas contents, mais s'ils sont vraiment cinéphiles et qu'ils ont envie de voir d'autres choses, et ben, libre à eux d'aller sur d'autres supports.
Oui.
Et voilà, c'est la liberté en fait, c'est notre liberté de choix, c'est notre liberté à tous. Et puis je sais très bien que les gens, les cinéphiles, ils regardent, ils s'en fichent, ils regardent les films partout, ils peuvent les voir.
Oui, si ce n'est que voilà, voir un film, on ne le dira jamais assez, voir un film dans un cinéma, rien ne le remplacera. On a pu s'en rendre compte d'ailleurs ces derniers mois. Tu as parlé de rire à un moment, de Mandibule, je crois, voilà, un film plein d'humour. Justement, dans ces choix que tu fais de programmateur, est-ce que tu as pris en compte, le fait, est-ce que tu penses que les gens ont besoin de choses un peu plus légères, peut-être un peu plus de légèreté que d'habitude dans cette sortie de confinement?
Je veux le croire. C'est-à-dire que oui, je le pense. Enfin, je sais que moi-même, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de films, oui, et de séries aussi. J'en ai profité pour voir des trucs que je vois un peu moins d'habitude. Et c'est vrai que j'aime beaucoup certaines séries très sombres, très difficiles, mais au bout d'un moment, c'est pesant aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir certains films en salle avec mon équipe, ou avec des happy few, enfin des professionnels. On a le droit de faire ça entre professionnels et voir des films drôles ensemble dans une salle, c'est autrement plus agréable, honnêtement. Il y a quand même quelque chose qui fait énormément de bien et du coup voilà, c'est vrai que on a envie d'un peu de légèreté. Je dis pas qu'on le fera complètement parce qu'il y a aussi des très beaux films dramatiques qui sortent.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que voilà, des films un peu plus légers, on rigole, c'est quand même très agréable, ça fait du bien, ça permet de sortir aussi d'une crise, hein. On sort d'une crise malgré tout.
Oui, je crois qu'on en a besoin, effectivement, c'est de toutes et tous, il y a besoin, et comme tu disais, de le faire ensemble, en plus, de pouvoir partager cette... Alors, le 19, comment ça va se passer? On viendra comme normalement.
Comme d'habitude.
Voilà, on vient avec son masque et son gel.
Et on vient avec son masque, bah, du gel, il y en aura à disposition, ouais, à l'accueil, comme toujours. On vient de quoi se laver les mains, on est bien. Hein. Mais évidemment, on vient avec son masque dans tous les lieux clos, comme ça. C'est justement... nous, on n'a pas vraiment eu de cluster, mmh, a priori. On n'a pas eu de cluster dans les lieux culturels avant toutes ces fermetures. On a été des lieux plutôt sains et safe, parce que on fait attention, parce que l'air de nos salles est en permanence renouvelé, malgré tout, et que là, on va laisser des espacements entre les séances pour qu'on ait le temps de respirer, mmh, évidemment. On a fait très attention, mais le port du masque est obligatoire dans ces lieux clos. Ça reste la règle. Nous n'avons pas prévu de reprendre la confiserie, par exemple. C'est pas rassurant, on n'a pas le droit. A priori, on n'aura pas le droit de vendre de confiserie avant début juin. Mm-hmm. En même temps que la réouverture des restaurants en intérieur, et ce qui est à peu près logique aussi. Mm-hmm. Donc non, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Les gens seront accueillis comme d'habitude.
Et avec le sourire, en plus.
Avec le sourire sous le masque, mais avec le sourire. Et en prenant, bien sûr, toutes les mesures qu'il faut. Voilà. Et puis, les cartes d'abonnement seront prolongées. Donc, on peut revenir avec sa carte d'abonnement, etc.
D'accord. Même si
on va proposer deux, trois choses.
Juste pour finir, est-ce qu'éventuellement, vous avez envisagé des réservations? Parce que cette jauge à 35%, comme tu disais, bon, y a peut-être que c'est suffisant. Mais avec l'envie, il y a une grande envie, oui, quand même des gens de revenir au cinéma. Est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir la queue, on va se battre pour aller au cinéma?
Alors, la semaine prochaine, on va donner toutes les modalités. La semaine prochaine, on va travailler dessus lundi. On est en train de finaliser des choses. Évidemment que pour certains films, mais surtout à cause de la taille de certaines salles, on va être obligé de mettre en place de la réservation. Mm-hmm. Normalement, on a la vente internet qui devrait être effective, parce qu'on est, nous, on est un petit peu en retard sur ces choses-là, pour tout vous dire. Mm-hmm. On a travaillé dessus pendant toute la fermeture et on espère que ça fonctionnera bien pour la reprise, mais on ne peut pas faire que de la vente internet parce que tout le monde n'y a pas forcément accès, que c'est un peu compliqué. Donc on va voir ça lundi avec mon équipe pour prévoir justement ces réservations, quel est la meilleure solution pour le faire, parce qu'en effet, j'ai des salles, je pense à la salle 4 notamment, où 35%, ça fait une vingtaine de places, quoi. Mm-hmm. Donc c'est pas énorme, 20 places.
En tous les cas, on va guetter tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cyril, et puis très 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 heureux et heureuse de pouvoir retrouver nos cinémas au plus vite.
Merci pour l'invitation, merci à vous, et puis à très bientôt.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Moi, ça me donne le sourire d'entendre parler cinéma aujourd'hui. Pour l'info du moment, sachez que la gare à coulisses à Cré propose une série de stages pour découvrir, s'initier et se perfectionner à la soudure à l'arc durant tout le mois de juin. Donc si ça vous intéresse, c'est deux jours dans l'atelier de construction métal pour comprendre les principes de la soudure, acquérir les gestes de base et réaliser des assemblages simples. Puis un deuxième cycle indépendant pour perfectionner le geste, réaliser des assemblages plus complexes et se préparer à l'examen de qualité qualification de soudeur. La formation est menée par Arnaud Grasset, chef d'atelier, concepteur et constructeur de structures aériennes et de machinerie pour le cirque, la rue et le spectacle vivant, collaborateur de longue date de la compagnie Transexpress. Donc le cycle 1, initiation à la soudure à l'arc sur acier, c'est lundi et mardi à 14h, ça coûte 200 euros. Et le cycle 2, perfectionnement à la soudure à l'arc et MIG, alors je ne sais pas ce que c'est, sur acier, pardon, lundi et mardi, 16h, 250 euros pour les dates. Donc c'est tout le mois de juin à peu près. Je vous laisse regarder sur le site pour en savoir plus, gare-a-coulisses au pluriel.com. Et sinon, pour vous inscrire, atelier@trans-express.com.
Alors après avoir dégusté un bon film, s'être initié à la soudure à l'arc, eh bien il faut se restaurer. Et pour se restaurer, eh bien on accueille Sophie de la ruche Trucmuche, qui est une qui a son rond de serviette dans la locale. Bonjour Sophie. Et donc Sophie, eh bien la ruche Trucmuche lance ses marchés guinguettes.
Oui, voilà, Sylvie, ça fait déjà la troisième année qu'on fait ça, mais tous les premiers jeudis du mois va avoir lieu à la ruche Trucmuche, donc des marchés guinguettes avec du local, des producteurs comme Jardin en Ville, le Madrome, Olivier Ponton qui vient vendre des jus de fruits, du miel, de fleurs de miel, voilà, tout plein de bonnes choses pour se régaler, quelques artisans aussi. Voilà, donc ça aura lieu tous les premiers jeudis du mois, de 17h30 à 21h, quand il n'y aura plus le couvre-feu. Et à la fin du marché, il y aura toujours un petit spectacle ou un petit concert, histoire de terminer en musique et en art.
Alors, concert acoustique, qu'on le précise bien. Oui. Et ça, c'est donc ça démarre ce samedi.
Voilà, jeudi.
Aujourd'hui, oh là là.
Lancement.
Voilà, non, parce que le samedi, il y a aussi des choses. Mais oui. Voilà, je mélange les pédales. Non, c'est le lancement, c'est aujourd'hui à 17h30.
Voilà.
Ah, génial.
Et alors, c'est 90 boulevard du 3e millénaire à Bourg-les-Valence. Vous le savez, c'est la ruche Trucmuche depuis le temps, vous devez le savoir. Est-ce qu'il y a. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est obligé de prendre une carte d'adhérent ou est-ce qu'on vient comme ça?
Oui, en général, pour venir à tous les événements qui sont organisés par la ruche Trucmuche, il faut prendre une carte d'adhérent. C'est pour la responsabilité, vu qu'on a un service de bar et de restauration aussi. Voilà, il faut rentrer dans ce cadre privé et l'adhésion est à prix libre. Voilà.
Donc, on arrive sur site, il y a un endroit où on peut prendre son adhésion et on devient, une abeille.
L'abeille officielle.
Officielle et officiellement. Alors, ça, c'est effectivement les marchés guinguettes. D'ailleurs, est-ce que si on a des gens qui nous écoutent, qui proposent eux-mêmes des choses, est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec vous? Est-ce que vous êtes ouvert à des nouveaux artisans ou créateurs ou créatrices?
Ah oui, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui veulent participer, il faut nous contacter sur la boîte mail de l'asso, à savoir laruchetrucmuche, tout attaché, @gmail.com. Voilà. Et on sera ravis d'accueillir de nouvelles abeilles qui viennent participer aussi aux événements.
Alors, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment du coup le lancement. On revit un petit peu. C'est vraiment le lancement de la saison 2021 de la ruche. Parce qu'il y a des marchés guinguettes, mais vous nous avez concocté aussi d'autres choses, comme chaque année d'ailleurs.
Oui, voilà, là, c'est un petit peu le lancement de la saison 2021. Cette année, on peut commencer au mois de mai. L'année dernière, ça avait commencé beaucoup plus tard. Et cette année, on part sur une programmation d'à peu près 2 événements par mois. Donc le marché guinguette et une autre soirée à thème chaque mois. Par exemple, là, au mois de mai, le 29 mai, ça sera un marché des arts, la deuxième événement programmé. Et là, ça sera plutôt une sélection d'artistes et artisans d'art. sur une journée, une exposition de 11h à 18h30, suivie d'un petit apéro-concert. Voilà, et durant, pour ce marché, là, il y aura... C'est en résonance un petit peu aux journées européennes des métiers d'art qui ont été annulées au mois d'avril. C'est pour faire un clin d'œil à ça. Et ça sera matière à l'œuvre. Donc, il y aura un artisan qui fait du verre, de la photographie, des peintures, des bijoux en argent, des bijoux en macramé, de la terre. Voilà, essayer au maximum de représenter toutes les matières que l'on peut travailler.
Et mettre en avant ces beaux métiers d'artisans d'art qu'on ne nomme pas artistes simplement parce qu'ils vendent leur production. Pourquoi d'ailleurs on se pose toujours la question de ce clivage artiste et artisan d'art?
Oui, le clivage artisan d'art, c'est des statuts différents. Peut-être c'est des porte-monnaies différents. On peut penser que l'artiste a quelque chose de plus, va produire des choses plus rares, plus chères, et que les artisans ils travaillent plus pour le populaire. Après ça c'est je pense pas que ça soit la réalité parce que je pense que des fois il y a certains artisans qui excellent vraiment dans des savoir-faire
et qui sont de véritables artistes.
Ouais. Je ne sais pas pourquoi on doit différencier les mots avec des étiquettes. Enfin, les métiers.
En tous les cas, ce sont des créateurs et créatrices de grands talents souvent. Carina, tu veux...
Moi, j'écoute et je prends des notes pour y aller. Je m'organise, j'ai tellement hâte que les choses reprennent un peu.
Donc, c'est ce soir, ce premier rendez-vous. Après, il y en aura jusqu'à l'automne. Cet été, ça tourne aussi?
Oui, la programmation, c'est de mai à octobre. On peut la voir sur la page Facebook de l'association, donc la Ruche Trucmuche. Il y a un encart sur la programmation. Et elle se clôturera en octobre par un petit festival qui s'appelle Arborez. Donc, c'est un des projets qui est porté par l'association, à savoir planter à peu près 800 arbres sur la parcelle agricole du lieu pour constituer une haie bocagère. Donc, la saison terminera par ce festival-là.
Effectivement, l'année dernière, on vous avait accueilli pour en parler l'événement était un beau moment, chouette moment de partage qui avait bien fonctionné. Alors cette année, c'est formidable, c'est que la deuxième édition, ça sera pour planter les arbres.
On concrétise.
Et ça, c'est chouette. merci Sophie. Non, donc merci rendez-vous, rendez-vous, on le redit, rendez-vous ce soir à 17h30, hein, c'est ça
Oui, c'est ça, 17h30. Et petite précision, il y a un petit concert de Milo Batti et sa poésie afrodélique à 18h. Voilà, on l'a mis à 18h pour essayer de respecter le couvre-feu.
Super. Ne loupez pas Milo si vous n'avez jamais... vous avez entendu sur Radio BLV son univers et c'est vraiment un chouette artiste là aussi, justement. Mmh. Un chouette créateur et un passeur de mots et un jongleur de mots hors pair. Voilà pour cette Ruche Trucmuche. Merci beaucoup Sophie.
Merci à vous. Merci.
Alors, deux courtes brèves aussi pour les informations. Il y en a une qui nous vient de l'agglo de Valence-Rouman. Sachez que samedi 8 mai, les déchetteries seront fermées. Réouverture le lundi 10 selon les horaires habituels. Et une autre qui nous vient de la préfecture de la Drôme. Sachez que ce matin se tient un exercice de sécurité annuel au dépôt de gaz Antargaz de L'Oriole. C'est tenu. Et donc, si vous avez entendu une sirène, c'était tout à fait normal. Aucun risque et aucune inquiétude à avoir.
Merci. Mais Mais c'est bien de préciser, parce qu'à chaque fois qu'on entend une sirène, voilà, le déclenchement de la sirène des pompiers, on est toujours un petit peu chafouin, un petit peu inquiet. Voilà. Allez, troisième et dernier volet de notre série avec Viviane Rageau, donc directrice du service patrimoine du Pays d'Arrêt d'Histoire, pour des balades nature et patrimoine. Et alors aujourd'hui, l'idée est partie de la distance de 10 km qu'on nous imposait. Et du coup, on finit par Valence. Bonjour Viviane.
Bonjour.
Alors Viviane, pour ce dernier rendez-vous, en tous les cas, de ce printemps de 2021, tu nous emmènes à Valence.
Ah oui, balade nature à Valence, voilà. Non, c'est vrai que c'est intéressant parce que Valence, on a une grande richesse à Valence avec des parcs à l'extérieur, enfin, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, juste en limite de ville, mais aussi à l'intérieur. Donc, même si aujourd'hui, malheureusement, le parc de Saint-Ruf, pour des raisons qui sont techniques et de danger, donc est fermé, mais ça n'empêche qu'on a quand même, outre le parc Jouvet, qui est le parc que tout le monde connaît, ce fameux parc des Trinités. Alors mon idée, c'était de dire, voilà, on va faire une balade et on se promène à partir du parc des Trinitaires et on va rejoindre les canaux et on va se balader le long des canaux jusqu'à la Prat et le plateau de l'Autagne à la limite. Alors pourquoi pas après continuer la balade et revenir derrière le plateau de l'Autagne, tout à fait faisable, pour voir le patrimoine du 21e siècle qui se construit, puisqu'on a ce beau château d'eau là qui est en cours de construction sur le plateau de l'Autagne. Alors en démarrant, l'idée c'était de démarrer au parc des Trinitaires. Alors c'est un parc dont on nous pose souvent la question, mais pourquoi il s'appelle Trinitaire ? Eh bien, parce qu'il a été, à un moment, d'ailleurs un moment assez long, de la fin du 19e siècle, pardon, jusqu'à la fin du 19e, à peu près une centaine d'années, propriété des Sœurs Trinitaires de Valence. Vous savez, ces Sœurs Trinitaires qui étaient présentes dans le centre-ville, dans l'espace qui a été occupé jusque récemment par la médiathèque. Donc, juste en face du théâtre de la Comédie de Valence. Voilà, la médiathèque de Valence, c'était initialement l'Hôtel Dieu. Alors, si on remonte encore plus longtemps, initialement, c'était l'Hôtel Dieu de Valence. On y soignait les malades. Il se trouve qu'à la fin du XVIIe siècle, les dames de service, qui faisaient partie généralement des dames des grandes familles qui s'occupaient de la charité et notamment de soigner les malades, l'Hôtel Dieu de Valence fonctionnait pas très bien. Et l'évêque de Valence, en 1680 à peu près, va choisir de faire gérer l'hôpital par des religieuses. Parce qu'en fait, il avait dû faire un petit audit sur et sur son hôpital et sur voir comment ça se passait ailleurs. Et visiblement, c'était quand même les religieuses qui avaient le plus de qualité pour gérer. Et donc, ils font venir trois sœurs trinitaires. Elles ne sont même pas sœurs parce qu'à l'époque, à la fin du XVIIe, les trinitaires n'existent pas. Les hommes trinitaires, oui, c'est un ordre religieux. Les femmes, non, ce n'est pas encore un ordre religieux. Ce sont ce qu'on appelle des filles assemblées. Donc, elles sont assemblées, elles ont un directeur de conscience qui est trinitaire et qui les aide dans leur démarche. Et elles, ce qu'elles veulent, c'est être connues comme étant des vraies religieuses avec un vrai corps religieux. Et donc, elles vont adopter les mêmes principes que les frères trinitaires, c'est-à-dire qu'elles vont œuvrer pour le rachat des captifs. C'est quelque chose qu'on connaît très peu aujourd'hui et pourtant, c'est une histoire qui est assez extraordinaire. Valence a été, bien sûr, impliquée dans cette histoire puisque ces sœurs trinitaires, en fait, elles arrivent en 1683, elles vont être déclarées comme assemblée reconnue et puis ensuite elles seront déclarées en congrégation. Mais tout ça va prendre du temps, ça va prendre à peu près 2 siècles. Mais elles vont pouvoir très vite, à partir du XVIIIe siècle, faire comme les pères trinitaires, c'est-à-dire participer au rachat des captifs. Elles récoltent des sommes d'argent, elles récoltent des dons, et ces dons, elles les mettent au service du rachat des chrétiens qui sont enlevés par les barbaresques en Méditerranée. Parce que on a des courants de pirates, en fait, complètement généralisés en Méditerranée. Beaucoup de gens qui vont en Orient, qui vont, notamment beaucoup de chrétiens, qui vont sur les lieux du Christ, etc.
Font commerce aussi, j'imagine.
Ah, ben, qui font commerce, bien sûr, qui vivent, qui font commerce, qui visitent. Enfin, bon, voilà, il y a toutes sortes de voyageurs qui traversent la Méditerranée en bateau et qui se font attaquer par des pirates, ensuite enlevés, rançonnés. Et donc, on demande des rançons aux familles, tout simplement. La plupart des familles ne peuvent pas payer les rançons, bien évidemment. Et du coup, les pères trinitaires avaient pour mission de participer à ce rachat des captifs. D'ailleurs, les représentations c'est des trinitaires, incroyable. On voit souvent avec un homme enchaîné à côté, un père trinitaire à côté d'un homme enchaîné, donc qui rappelle quand même bien cette... Et elles vont participer, d'ailleurs, elles vont faire venir à plusieurs reprises des processions de captifs qui vont sillonner les rues de Valence. Voilà, enfin bon, ça c'est une histoire parallèle. Mais voilà, ces sœurs trinitaires, elles restent à Valence dans ce qui est aujourd'hui le bâtiment de l'ancienne médiathèque, à l'Hôtel Dieu, elles soignent les malades. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de l'Hôtel Dieu, mais finalement... il se trouve qu'au XIXe siècle, elles vont perdre le soin des malades, mais en échange, elles vont devenir des sœurs enseignantes et elles vont ouvrir des écoles, toujours à l'emplacement dont je parle, hein, à côté de l'église Saint-Jean, là en centre-ville. Elles ouvrent une école, elles ouvrent d'ailleurs la première école normale de filles, c'était religieux, c'était les trinitaires qui l'avaient ouverte. Elles accueillent des petites filles et puis elles sont aussi un noviciat. Elles ouvrent un noviciat puisque pour former des futures sœurs trinitaires qui partiront de partout dans le monde. Voilà. Et la maison mère est là, est à Valence. Et en fait, elles souffrent de l'absence d'espace vert parce que toutes ces petites filles qui sont, on dit qu'il y en a eu jusqu'à 200, hein. Donc, et qui n'avaient pas d'espace vert, pas d'une petite cour toute minuscule. Enfin bon. Donc, elles achètent le parc des Trinitaires. Enfin, le parc qui ne portait pas ce nom-là
avant, bien sûr,
et
qui devient, de fait...
Qui devient, voilà, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Elles rachètent ce parc et il y avait une maison de maître dans ce parc qu'elles rachètent, bien sûr, avec les communs. Alors, la maison de maître, c'est ce qui est devenu la crèche des Balives, que je crois que beaucoup de Valentinois connaissent. Et puis, les communs, c'est devenu ces espaces affectés au loco-rock, au théâtre, à la fabrique, etc. Voilà. On a tous ces espaces qui existent encore. Donc, finalement, la maison de maître est transformée en maison de retraite pour les sœurs âgées. Et le parc est aménagé pour accueillir toutes ces petites filles qui viennent les jours où il n'y a pas classe, le dimanche, elles viennent et elles cultivent, hein, elles ont un jardin, ça devient un jardin vivrier, enfin bon, il y a le canal qui passe et aujourd'hui, donc on peut se promener dans ce parc et suivre le canal. Il y a deux sentiers possibles, un sentier qui est plus à l'est, un autre plus à l'ouest. On longe le canal ou bien on longe la terrasse finalement. Donc on peut... c'est marrant parce que le canal en question, en fait, il s'appelle le ruisseau de l'Épervière sur les plans anciens et on dit que c'est le plus vieux que c'est le plus petit fleuve de France. Voilà. Il est appelé le plus petit fleuve de France. Alors bien évidemment, c'est le canal de l'Épervière, donc il est tout petit. Et il passe par... Alors nous, on remonte du coup le canal jusqu'au parc Jouvet. Donc l'idée, c'est de traverser ce parc des Trinitaires, d'arriver au parc Jouvet, de traverser le parc Jouvet, ensuite de remonter, faire un peu de ville et de passer par le quartier de la gare de Valence et de rejoindre les canaux. Donc pour rejoindre les canaux, il y a deux possibilités, mais moi, je trouve que c'est intéressant de reprendre pour rejoindre la rue des Moulins. Alors pourquoi la rue des Moulins? Parce que ça va nous permettre d'une part de rejoindre le canal des Moulins et d'autre part de rejoindre l'espace qui est au 35 rue des Moulins, qui est une maison, vous allez découvrir une maison tout à fait exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle la Villa Margot, d'ailleurs elle est écrite dessus, vous allez la reconnaître, son nom est écrit dessus, Villa Margot pour Marguerite, puisque son constructeur était un architecte tout à fait exceptionnel à Valence, qui est Casimir Geneste, qui était un architecte très original, originaire de l'Isère. Il était de Voiron, je crois, originaire de Voiron. Il avait d'ailleurs exercé à Voiron comme architecte. Et puis, il s'était installé à Valence. À Valence, il a fait une petite carrière politique aussi. Il a été élu, il était adjoint au maire Aimé David, très engagé sur la reconnaissance de Valence et notamment sur l'histoire de la statue à l'honneur d'Émile Augier. Enfin, il a participé à beaucoup de choses en tant qu'élu. Et puis, et surtout en tant qu'architecte, il a construit la maison pour sa fille qui s'appelait Marguerite, d'où le nom de Villa Margot, très originale. On est en 1900 à peu près, hein. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais on est autour de 1900. Et puis à côté, il s'est construit une maison. C'est marrant parce que c'est une seule, a priori à l'origine, c'était une seule maison, mais elle a quatre façades différentes. Et donc, on a un peu l'impression qu'il s'est fait un petit catalogue de maisons, de façades de maisons.
Un showroom.
Il s'est fait voilà, un petit catalogue de façades. Alors, il y a une maison, il y a une partie, elle est un peu gothique, une partie, elle est romane, néo-romane. Une partie, c'est un petit peu chalet suisse. Vous voyez, ça fait quatre. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très bien réhabilité. Là, pour le coup, on est dans du patrimoine privé. C'est pas forcément très visible de l'extérieur, mais on voit le haut quand même. On voit le haut de l'extérieur. Mais c'est là, pour le jour, c'est très bien entretenu. Et puis, il y a dans le jardin, il y a une petite... Une petite fabrique égyptienne, donc aussi très originale. C'est vrai que ce Casimir Geneste s'entourait de beaucoup de poète, musicien, enfin on dit qu'il a fait venir Vincent Dindy, etc. Enfin bon, il y aurait eu des grands rassemblements de personnages tout à fait exceptionnels dans cette maison. Et il y avait encore une autre maison de l'autre côté, qui fermait donc de l'autre côté. Alors on passe par la rue des Moulins, mais si on va sur la rue parallèle, on arrive dans la rue Pondugat. Et donc en arrivant dans la rue Pondugat, on a deux façades de chaque côté. Une façade, c'est l'ancienne clinique. Pour les anciens de Valence, ils se rappellent peut-être de cette clinique Saint-Joseph qui était là, qui était la clinique du docteur Rigal. Ça, c'est pour les personnes très âgées, la clinique du docteur Rigal. Et c'était l'ancienne villa qui appartenait à Casimir Gédès, qui là, pour le coup, a été détruite pour construire la villa, la clinique. Et juste en face de la clinique, on a ce qu'on appelle la cité des officiers. À Valence, c'est assez connu parce que c'est une cité. Alors, des officiers, non pas pour y loger des militaires, pas du tout ça, puisqu'on a souvent dit que c'était pour loger des militaires. Non, c'était pour. Parce que les deux, finalement, propriétaires ensuite de cette maison ont été des officiers, étaient militaires. Et donc, du coup, voilà,
oui, c'est on a devenu, dit que c'était. Par extension,
c'est devenu la cité dont les propriétaires étaient des officiers, des militaires. Et en fait, c'était Casimir Genet qui a construit ça aussi. Ce sont des petites maisons qui donnent à la fois sur la rue, de chaque côté, et qui donnent sur, de l'autre côté, un jardin. C'est-à-dire qu'au centre, il y a un grand jardin divisé en lanières. Et de part et d'autre, rue des Alpes et rue Pondugat, on a des façades de ces maisons. C'est tout à fait original, avec des décors sous les toits, sous les avancées de toits, des petites représentations de lapins. C'est vraiment très, très, très marrant. Il faut lever les yeux quoi, pour le voir, parce que c'est vrai, quand on passe à côté, on n'a pas... Surtout quand on va au travail le matin, bon, on n'a pas forcément l'idée de lever les yeux pour admirer le paysage.
Mais il faut toujours lever les yeux. Bon.
Voilà. Donc ça, c'est l'occasion de passer, de se faire de cette balade, c'est de passer par là et puis de rejoindre le canal des Moulins. C'est une petite aventure parce qu'il y a des endroits où il faut vraiment se resserrer pour passer entre les arbres et le bord du canal. Puis il y a un moment aussi où on est coincé, on est obligé un peu de revenir sur nos pas. Mais bon, après, c'est de rejoindre le site de la Marquise, du canal de la Marquise, là où il y a les jeux de boules, vers l'église Sainte-Thérèse. Et puis ensuite, de rejoindre la Prat. Donc là, ça va tout seul parce qu'en fait, il faut suivre les canaux. Il y a toujours des chemins autour des canaux. Là, on arrive au canal des Malcontents qui est... canal ville, donc très bien entretenu, donc le sentier est très bien géré, il n'y a aucun problème. Et puis, vous pouvez ensuite reprendre et redescendre dans la basse ville de Valence en suivant le canal et puis ensuite en traversant. Par contre, après, il faut traverser la voie ferrée. Il y a quand même ça.
Voilà,
ça c'est quand même, vous savez, c'est comme quand on dit, oui, au sud de Valence, il suffit de passer de l'est à l'ouest au sud de Valence, mais oui, il y a une autoroute, oui. Une voie ferrée, il y a le pont des Anglais, là, et ce n'est pas forcément très facile, mais bon, voilà. Après, on peut rejoindre le quartier de Valensole et puis revenir tout droit par le quartier de Valensole en revenant en plein ouest et traverser ce quartier de Valensole qui est aussi extraordinaire, quoi. C'est vraiment un quartier, une cité-jardin vraiment très, très original et qui a été conservé. C'est même assez exceptionnel d'avoir pu conserver cette cité-jardin
en l'état,
ça.
Oui.
Voilà. Voilà,
mais
tout à fait.
Absolument.
Donc, ça fait une belle balade, à la fois nature et ville, où c'est intéressant. Voilà,
et
architecture.
Est-ce qu'on a... j'imagine qu'à l'Office du tourisme, on trouve des plans.
Oui,
est-ce
oui,
qu'on
oui,
peut,
oui.
Ou
alors,
chez vous,
chez nous, dès que nous serons ouverts, j'espère très bientôt, mais à l'Office de tourisme aussi, de toute façon, qui sont ouverts, là, en ce moment, déjà, ils sont ouverts un petit peu, pas aux heures normales, mais vous pouvez vous procurer les plans des canaux et du coup, et de retrouver un peu cette balade très facilement, puis la varier, faire aussi comme bon semble à chacun, de se promener en fonction de la forme qu'on a. Parce que je disais, on peut à partir de la Prat, là, un peu après, on peut rejoindre le plateau de l'Autagne. Pourquoi pas? Donc,
selon ses capacités.
Voilà. Et n'hésitez pas, oui, tout à fait, prendre le plan des canaux qui est proposé par l'Office de tourisme et puis chez nous aussi.
Merci beaucoup, Viviane, de nous avoir accompagnés pendant ces trois semaines sur trois balades différentes pour découvrir le territoire autrement. Et puis, j'espère que très, très vite, on va vous retrouver en vrai. Voilà,
bien,
pas seulement par les oreilles.
Toute l'équipe des guides conférenciers n'attend que ça. Donc, nous espérons tous que ça reviendra bientôt.
Merci beaucoup d'avoir
été
avec nous.
Merci à vous. Au revoir.
Et après ce grand bol d'air, on va revenir avec Sophie, parce que Sophie, elle a la casquette Trucmuche, mais elle a la casquette aussi artisane d'art, et elle a la casquette musicienne. Elle est protéiforme, Sophie. C'est une femme totale. Et donc, tu faisais partie de celles et ceux qui ont occupé la fabrique, la comédie, et qui occupent encore. Donc, cette occupation dont on aurait dû parler un peu au travers des photos. Maintenant que les informations de réouverture sont annoncées, avec toutes les précautions oratoires que Cyril Désiré mettait tout à l'heure, de fait, l'occupation, elle va tomber, ou le mouvement va continuer, peut-être d'une autre manière, je ne sais pas.
Ça, c'est les questions qui sont en cours en ce moment aux différentes AG, qui se passent donc 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, entre midi et 2. Et voilà, il y a des discussions en ce moment sur quelle est la suite de ce mouvement. Est-ce que quand la réouverture des lieux va être là, ce mouvement va s'arrêter? Je pense qu'il y a un désir quand même de prolonger ces mouvements et ces réflexions collectives, en fait, autour de des sujets de l'art, de la culture. Et en ce moment, en dehors, il y a des réunions qui sont faites pour parler d'un projet de coopérative populaire des arts. Voilà. Ou peut-être que les gens qui étaient très impliqués dans le mouvement d'occupation vont créer une structure pour garder, en fait, essayer de garder un lieu qui va être là pour le rassemblement, pour proposer de l'art populaire, des actions. Voilà, c'est les réflexions en cours.
Très bien. Donc on peut encore aller voir et puis voir l'expo, aller à la fabrique pour voir l'expo et puis pour rencontrer et participer aux AG si le cœur vous en dit, et pour peut-être faire évoluer effectivement ce mouvement, prendre qu'il soit un tremplin pour vers d'autres choses. Merci Sophie en tous les cas de ces quelques mots. Et puis bien Karina, une bonne nouvelle.
Et oui, pour finir, une bonne nouvelle qui a lieu dans les Alpes-Maritimes, mais on espère peut-être bientôt dans la Drôme. Sachez que depuis mardi, le port du masque n'est plus obligatoire sur le bord de mer et dans les espaces verts. C'est une décision du préfet qui permet maintenant de se promener librement dans les parcs, les jardins, les espaces aménagés en bord de cours d'eau et du littoral, les plages, les bords de plans d'eau aussi, étangs, lacs et pièces d'eau, des bases de loisirs. Et selon France 3, les maires des communes du département peuvent quand même choisir de maintenir ou non cette obligation. Mais voilà, on croise les doigts pour que ça arrive jusqu'à nous et que ça incite peut-être aussi les habitants à se rapprocher plus de la nature.
Effectivement, ça serait une bonne chose. Bon, en sachant que de toute façon, d'ores et déjà, c'est vrai que souvent, les balades se faisaient sans masque quand elles sont un peu éloignées des centres névralgiques. Ne quittez pas Radio BLV. On arrive à la fin de cette locale. On se retrouvera mardi pour le prochain direct, c'est ce soir. C'est ce soir, Karina, et Top
c'est
Départ.
C'est ce soir. Alors, Top Départ, c'est la nouvelle émission de Radio BLV qu'on a commencé le mois dernier, surtout pour les jeunes, pour vous donner envie de partir à l'étranger, malgré la situation. Mais voilà, il faut faire des projets et puis c'est toujours possible de partir peut-être d'une manière ou d'une autre. Donc Top Départ, le mois dernier, c'était sur l'Allemagne. Et là, ce mois-ci, ça va être sur l'Europe centrale et de l'Est. Donc on va recevoir des jeunes qui sont partis, que ce soit en service civique ou que ce soit au lycée. Voilà, différentes expériences pour vous donner un peu une image de ce qu'on peut faire. Et voilà, c'est une émission interactive. Donc si vous voulez, vous pourrez nous appeler pour interagir avec les jeunes. Et voilà, en espérant que ça fonctionne et que ça donne envie de partir.
N'hésitez pas en tous les cas, c'est à 19h ce soir. Le direct aussi demain à 12h15, l'après-match d'Oscar. Direct aussi, l'ami Kléber et son fréquence soleil, non pas sociale, pardon, Fréquence Soleil de demain vendredi à 20h. Et nous, on se retrouve sur le direct de l'invité de 11h et quelques mardi à 11h avec Laurent Coquelard, bassiste de blues, mais aussi nouveau directeur de Jazz Action Valence, et à midi 15 pour la prochaine locale. Rediffusion de cette locale à 18h. Tout de suite à suivre Recto Verso avec Gérard Morel. C'est Vanessa qui vous propose cette émission. Je vous souhaite, je nous souhaite à tous la plus belle des fins de journée. Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.